Pourquoi donc, Christo, vouloir envelopper ce pont?
Vous savez que l'artiste était fasciné par la toile depuis milliers d'années dans la sculpture grecque, romaine, égyptienne, dans la sculpture gothique. Vous voyez les plis de toute cette statue gothique.
Histoire 2.
Des ponts neufs qui seront drapés avec cette toile et qui rendent un volume sculptural très évident. Alors, c'est-à-dire que la toile il va faire les formes beaucoup plus visibles.
Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voiler pour rendre plus visible et par un beau drapé faire saillir les formes. Christo a raison de le dire, ce geste est vieux comme la statuaire antique. En 1985, l'empaquetage du Pont Neuf avait dévoilé quelque chose de notre rapport à l'art contemporain. Mais c'est peut-être notre relation embarrassée à la mémoire que met à l'épreuve l'empaquetage de l'Arc de Triomphe. À l'heure où la tentation est forte chez certains de renverser les statues qui leur tombent des yeux, tandis que, pour d'autres, chaque geste artistique est perçu comme un outrage, vivons-nous un malaise dans la monumentalité? Eh ben, on va y aller voir. C'est plus fort que nous, les historiennes et les historiens, on est comme ça, dès qu'on entend cacher ce monument que je ne saurais voir, cela nous donne l'envie furieuse de lever le voile. Sur l'histoire de l'Arc de Triomphe lui-même, mais aussi sur toutes les vieilles gloires militaires prises pour cible par ce que l'on appelle aujourd'hui la cancel culture. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui avec l'historienne Laure Murat, autrice notamment de L'homme qui se prenait pour Napoléon en 2011 et qui est bien placée pour savoir combien Napoléon peut nous rendre fous. Nous serons rejoints par les deux sociétaires du jour, Ludivine Bontigny et Pascal Horry, qui eux ne se prennent pas pour Napoléon car nous savons garder la tête froide à Histoire 2. Laure Murat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne et vous enseignez la littérature française à Los Angeles, ville à laquelle vous avez consacré un beau livre. C'était en 2016, c'est ça ? Ceci n'est pas une ville.
Absolument.
Et ce qui prouve d'ailleurs que vous n'êtes pas ennemi de la grandeur, pas plus d'ailleurs que de la patrie littéraire et de sa mémoire, puisque vous étiez en mai 2020 de la cérémonie de pose d'une plaque commémorative à Adrienne Monnier, la sainte patronne des libraires, grande figure auquel vous avez consacré un autre livre, Passage de l'Odéon. C'est une idée où l'on voit à Paris davantage les noms des généraux que des femmes de lettres.
Non, c'est une réalité qu'essaye de corriger, qu'a déjà essayé de corriger Bertrand Delanoë et que continue Anne Hidalgo. Donc, on remplace certains noms de rues, c'est très difficile. On baptise certaines allées, certains jardins, certaines bibliothèques de noms de femmes résistantes, juives, lesbiennes, etc., qui n'avaient pas nécessairement leur place dans l'espace public. Et c'est évidemment une initiative qu'il faut saluer, qu'il faut continuer. Vous avez l'allée Gisèle Freund, etc. Donc ça gagne un peu de terrain.
Mais vous avez aussi quelqu'un qu'on appelle Christo, et qui est en fait un couple d'artistes contemporains. Jeanne-Claude et Christo, ils sont nés le même jour, 13 juin 1935, l'une au Maroc, l'autre en Bulgarie. Et ce qui est en train d'être vu, c'est-à-dire l'empaquetage de l'Arc de Triomphe, ben c'est un projet qui date de 1962. Est-ce que ça vous convainc, leur démarche ?
J'ai envie de faire une réponse de Normand, oui et non. Oui, dans le sens où empaqueter un monument, c'est un tel paradoxe, puisqu'on empaquette quelque chose qu'on va emporter avec soi. Or là, on empaquette évidemment quelque chose qui va rester, puisque le monument, c'est exactement ça, ça commémore et ça reste. Hein, c'est pour l'éternité, en quelque sorte. J'aime ce paradoxe-là. Et puis cet autre paradoxe, qui est ce que vous avez rappelé au début, c'est-à-dire voiler pour mieux révéler. C'est-à-dire que quand on cache quelque chose, évidemment, on fait appel à sa propre mémoire pour se souvenir ce qu'il y a derrière ce voile. Et peut-être la signification de ce qu'il y a derrière. Donc de ce point de vue-là, c'est une démarche pédagogique presque, je dirais, en tout cas, qui intellectuellement est un peu provocante. Et ça, je trouve que c'est bien. Maintenant, je trouve que ça a un peu fait son temps, en quelque sorte, et peut-être qu'on aurait besoin de s'écarter un peu de ce soulignement, en quelque sorte, de ce surlignage de la monumentalité.
Parce que nous sommes dans un une sorte d'embarras vis-à-vis de ce qui dure et perdure, de cette massivité, de ce goût de la permanence, et parce que nous sommes à la recherche, au fond, d'une solution à la fois politique et esthétique pour rendre tout cela supportable, Laure Murin ?
Alors, je crois que les monuments en tant que tels, d'autant que le programme iconographique de l'Arc de Triomphe est d'une certaine façon assez varié, puisque sa construction a duré plus de 30 ans. Mais c'est quand même cette phrase de Napoléon qui disait « Vous ne rentrerez à la grande armée, bien entendu à ses soldats, vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe. » C'est une grande tradition.
Oui.
Maintenant, évidemment, ça arrive au moment du bicentenaire de la mort de Napoléon, qui a fait couler beaucoup d'encre. Faut-il célébrer Napoléon ? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a le problème de la commémoration. Qu'est-ce qu'on commémore ? Qui commémore-t-on et pour quelles raisons ? Ça n'est pas renier l'histoire que de ne pas commémorer, ou éventuellement de changer le programme iconographique de la ville. Il n'est évidemment pas question de détruire quoi que ce soit, mais peut-être de renouveler et de repenser notre époque à la lumière des découvertes récentes, je pense notamment aux études postcoloniales, et d'interroger ce que c'est que la monumentalité aujourd'hui. Alors, en effet, dans le projet de Christo, c'est une forme de rencontre entre la monumentalité des années 1806-1836 et l'intervention contemporaine de 2021. Mmh. Après tout, il y a une rencontre là aussi. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose de plus ou de renouvelé à trouver. Mais c'est facile, la critique est facile et l'art est difficile.
Alors, il y a une dimension franco-américaine, évidemment, dans l'aventure esthétique de Christo et Jeanne-Claude. D'une certaine manière, ce dont on parle, c'est-à-dire de la cancel culture, de la contestation, peut-être parfois de la dégradation des statuts publics, on le dit. Et d'ailleurs, quand on dit cancel culture, c'est pour le disqualifier d'emblée comme un mouvement des campus américains soumis à la tyrannie des minorités. On le dit ainsi pour, d'une certaine manière, pas vraiment avoir à le discuter. Bon, bah, vous en venez des campus américains, Laure Murin. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait ?
Mais il se passe rien de très grave. Il se passe qu'on réfléchit à certaines questions, qu'il y a certainement des excès dans la cancel culture. C'est certainement. Il faut pas oublier non plus que le plus grand ennemi de la cancel culture, c'est Donald Trump, qui parle de dictature d'extrême gauche, de fascisme d'extrême gauche. Alors bon, il faut encore que les mots aient un sens. La cancel culture, vous le rappeliez, ce n'est pas une expression aimable. Et pour cause, elle a été inventée par l'extrême droite et la droite très conservatrice américaine pour disqualifier des intentions progressistes qu'on peut discuter. Alors, quelles sont ces intentions progressistes ? C'est de dire, dans l'espace public, on commémore des racistes, des criminels. Est-ce qu'on ne peut pas changer ce programme iconographique ? Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui ? Et je crois que ce qui est au cœur de tout ça, puisque, alors vous dites ça se passe dans les campus américains, il y a certainement des réflexions qui se font autour de ça, mais c'est surtout, et d'ailleurs ce n'est pas du tout incompatible, ce sont les mouvements militants qui ont recours à la cancel culture. Je pense notamment à Black Lives Matter et à MeToo. C'est de faire bouger littéralement les statues sur leur socle, hein, au propre et au figuré, de se dire, bon, vous savez cette phrase très célèbre d'un conventionnel de la Révolution, cette fameuse phrase, l'histoire n'est pas notre code. Alors, je crois que dans la cancel culture, il y a deux choses. Il y a cette idée de qui commémore-t-on. Il y a quelque chose dans la commémoration qui est de l'ordre de l'approbation.
Oui.
Est-ce que on verrait aujourd'hui une statue de Pétain dans Paris ou n'importe où en France ? Non, bien entendu. Est-ce que il faut maintenir sur leur socle, et je pose la question littéralement, de tous ces colonialistes, colonisateurs, qui ont commis des crimes sans nombre, ou de ces esclavagistes, comme des exemples en Angleterre où certaines statues sont tombées ? Pourquoi ces questions sont posées aujourd'hui ? Le problème a vraiment... Bon, ça fait des années que ça dure, mais ça a beaucoup augmenté après la mort de George Floyd, à cause des violences policières. et d'une société où les suprématistes blancs sont quand même très présents, avec Donald Trump, ça a été même très loin, hein, jusqu'à l'attaque du Capitole, et de se demander si cette société violente, raciste, homophobe, transphobe, est une forme de continuité d'une société préexistante. Est-ce qu'il ne faut pas casser avec tout ça ? Ce sont des questions ouvertes que je crois qu'il faut pouvoir analyser.
Une question leur mûra justement de mots, puisque vous enseignez la littérature, donc vous savez que la langue en sait plus que nous sur bien des problèmes. Mais on parle de déboulonnage. Mais au fond, d'ailleurs, la plupart des statues ne sont pas scellées sur leur socle. Le plus souvent, on y suffit de les renverser. Je dirais, c'est plus facile qu'on le croit, c'est moins robuste qu'on le pense, un monument. Est-ce que tout cela, c'est pas aussi un mouvement dont vous montrez, je pense notamment à une conférence que vous avez donnée à la Grâce au banquet du livre cet été, et qu'on peut voir en vidéo sur leur site, bah, que tout cela est lié à des, non seulement des mouvements militants, comme vous le dites, mais aussi parfois des décisions légales, ça a été le cas dès 2020 en Angleterre, et puis aussi à une sorte d'attention plus soutenue que l'on porte aux monuments qui, sinon, au fond, étaient avec lesquels on cohabitait, mais de manière distraite.
Complètement, vous avez parfaitement raison. Alors, le déboulonnage, en effet, la plupart ne sont pas déboulonnés mais renversés, certains sont aspergés de peinture, comme c'était le cas par exemple pour les statues de Léopold II en Belgique. Je rappelle que Léopold II, qui a colonisé le Congo, a été responsable de 10 millions de morts, enfin c'est les estimations des historiens, c'est quand même beaucoup de gens. Alors, jets de peinture, dégradation, déboulonnage, il y en a eu quand même. Et évidemment, le fait de renverser des statues. Donc il y a toutes sortes de gestes. Mais le geste central, il est « nous ne voulons plus de ces symboles dans l'espace public ». Je crois que c'est ça le plus important.
Eh bien, c'est de ça dont on va continuer à parler avec nos deux sociétaires, Ludivine Bantigny et Pascal Horry, après une pause musicale.
All the light came into form in my mind. Reach out to all the ones who came before you. Ponder what is right, you and I, in defiance. Speak out the conversation they afford you. Wisdom of the wise, you and I. For the guiding light that opened up my mind.
Histoire 2, Patrick Boucheron sur France Inter.
En empaquetant l'Arc de Triomphe, Christo ne le cache pas, c'est entendu, mais le donne à voir dans ses grandes masses. Et son œuvre éphémère est visible à Paris du 18 septembre au 3 octobre. Toujours en compagnie de l'historienne Laure Murat, spécialiste du légendaire napoléonien, nous nous interrogeons à Histoire 2 sur ce qu'est un monument. Massif, il brave le temps, mais sa signification elle-même ne cesse d'évoluer à travers eux. Pour parler de l'événement, de l'impermanence, eh bien nos deux sociétaires du jour sont deux éminents historiens du contemporain. L'un est immortel, Pascal Horry, l'autre est une simple mortelle, Ludivine Bantigny.
Je risque bien de le rester.
C'est peut-être avec vous qu'on va commencer justement pour parler de cette impermanence, du sens de ce monument, l'Arc de Triomphe. Qu'est-ce que c'est devenu et qu'est-ce que c'était au départ ?
Oui, je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit l'une et l'autre dans la première partie de cette émission sur le fait qu'il y a un effet de révélation avec le geste esthétique, en l'occurrence du couple Christo, ou avec des gestes politiques dont on pourra reparler. Ça m'avait frappé d'ailleurs au moment de la violente polémique qui avait suivi le geste de certains gilets jaunes en décembre 2018 sur l'Arc de Triomphe, avec quelques tags et puis cette copie de plâtre de la statue de Rude qui avait été abîmée, qui est désormais parfaitement réparé, on dirait que rien ne s'est passé d'ailleurs. Ce qui avait été brandi à ce moment-là, ce sont quand même toute une série d'anachronismes. On avait beaucoup dit que c'était la statue de Marianne qui avait été ainsi profanée et que dès lors la République était en danger. Et ça me semble quand même un contresens historique. Et dès lors, réfléchir justement avec cet empaquetage à la monumentalité de cet Arc de Triomphe, c'est passionnant parce que ça revient à faire une histoire de l'espace public et de ce qui, dans notre espace public, est trop souvent oublié finalement. Invisibilisés. Ces monuments et ces statues nous entourent, mais nous deviennent finalement invisibles et leur sens historique se perd. Donc il faut rappeler en effet que l'Arc de Triomphe, c'est avant tout une volonté napoléonienne, c'est un monument à la gloire de la Grande Armée, c'est une sorte de surenchère dans l'ostentation militaire. D'ailleurs, Victor Hugo en parlait en disant que c'était que le géant de notre gloire, à savoir Napoléon bien sûr, pouvait passer sans se coucher. C'est une ostentation évidemment imprégnée de l'Antiquité, mais il fallait faire encore plus grand, encore plus puissant que l'arc de Constantin, dont il faut se rappeler d'ailleurs qu'il était destiné à déposer les armes. Les soldats qui revenaient de la guerre devaient déposer les armes au pied de l'Arc de Triomphe et devaient rendre hommage tout à la fois à l'empereur et à Jupiter. Donc ça résonne un peu aujourd'hui. Donc un monument dédié à la guerre qui a été inachevé en 1810 lors du mariage de Napoléon avec Marie-Louise, ça n'est qu'un amas de planches, il y a des toiles peintes, il y a un trompe-l'œil, etc. parce qu'il est absolument en construction encore. Et puis avec la chute de l'Empire, il restera inachevé pendant de nombreuses années. Il va même servir d'ailleurs très pragmatiquement de lieu pour installer un phare d'observation. Et puis ensuite, c'est Louis-Philippe, donc la monarchie de Juillet, avec rien moins que Thiers, qui est alors ministre de l'Intérieur et qui se fera aussi remarquer pour être un sabre-peuple, comme on le dira, sous la Commune, qui décide justement de restaurer cet Arc de Triomphe, d'en poursuivre la construction et de l'inaugurer pour rendre gloire justement à ses armées. Et il faut quand même souligner aussi que les bas-reliefs, hormis celui de Rude qui représente le champ du départ, la Némésis, la déesse guerrière, mais c'est vraiment un monument napoléonien qui n'a rien de républicain.
Justement, on va en parler parce que effectivement, François Rude, la Marseillaise, enfin en tout cas ce qui le devient justement, c'est lié à la monarchie de Juillet, à la resémantisation, on va dire, de l'Arc de Triomphe, qui est aussi une récupération de l'idéologie révolutionnaire, Pascal Horry.
Oui, parce que les premiers travaux érudits sur l'Arc de Triomphe montrent en fait que la Révolution française, y compris dans sa phase radicale, quand elle va célébrer par exemple Marat assassiné, etc., pense Arc de Triomphe. C'est-à-dire qu'il faut aussi, au-delà du mistigris politique que c'est, c'est-à-dire, bon, clairement c'est l'empereur, après qu'est-ce qu'en fait la Restauration, la monarchie de Juillet tire son épingle du jeu, la Troisième République va retrouver ça sur les bras, bon, qu'est-ce qu'elle peut en faire? Là, il y a un mistigris idéologique, d'accord, mais il y a une période qui pense monumentale de la même façon. Mmh. Et même Marat, on pense à lui ériger à un moment un Arc de Triomphe. Et le néoclassique, il sert à tout. D'ailleurs, actuellement, vous avez un monument chouan en Bretagne, c'est même un terroriste, c'est Cadoudal, quand même, c'est un régicide. Ben c'est un monument néoclassique, c'est pas du tout néogothique. Donc il y a pas une totale adéquation du culturel et du politique. Mais ce qui est remarquable dans le cas de l'Arc de Triomphe, c'est qu'au fond, c'est fondamentalement un arc guerrier, avec des noms de généraux, par exemple. C'est pour ça que j'ai toujours défendu l'idée que le contre-arc de triomphe de la République, c'était la Tour Eiffel, qui a des noms gravés, mais c'est des noms de savants. C'est ah 13 oui. siècles des Lumières, ça.
C'est ce que vous écrivez, d'ailleurs, Pascal Horry, ouais. dans un
mais
article.
Oui, c'est
dans
un arc 1. De triomphe pour le centenaire de la République.
Vous dites l'arche démocratique.
Exactement.
Qu'on ouais, met
on n'y pense pas, mais on pourrait défendre ça, en tous les cas. Mais, évidemment, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la guerre de 14-18 qui va complètement transformer, aux yeux des Français et des étrangers, la signification de ce monument, avec quelque chose d'assez génial en termes de monumentalité. C'est le soldat inconnu, donc pas le général connu, mais le soldat inconnu et la flamme éternelle. Et en effet, c'est cette signification-là qui fait que, par exemple, au moment des Gilets jaunes, on pouvait dire « c'est la France qu'on insulte ou la République », parce que l'Arc de Triomphe avait changé de nature, quand même.
Et c'est le défilé du 14 juillet 1919 hein, qui reconstitue comme lieu de mémoire l'Arc de Triomphe. Laure Murat, qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire ?
Je trouve que c'est une histoire assez extraordinaire. Je voulais juste rappeler aussi que l'Arc de Triomphe est quand même à un emplacement très spécifique. Il est sur l'axe historique Est-Ouest de Paris, qui commence au Louvre, qui continue avec les Tuileries, et qui s'achève maintenant à l'Arche de la Défense, dont l'Arche de la Défense qui reproduit dans sa partie évidée les dimensions exactes de la cour carrée du Louvre. Donc il y a une sorte d'effet de miroir entre le palais des rois et l'arche de la défense, qui n'est pas un arche guerrier, mais qui quand même est une sorte de réplique au Louvre. Donc l'Arc de Triomphe se retrouve aujourd'hui au beau milieu de toute cette affaire qui est quand même très chargée.
Mais justement, revenons, puisque cette affaire est très chargée, revenons sur cette question de l'allégorie de la statue de Rude. Donc 1833, 1836, c'était évidemment une allégorie de la guerre, de la France en armes. Et vous écrivez, Ludivine Bantigny, la Marseillaise n'a rien d'une Marianne, ce qui est évidemment parfaitement juste, puisque nous sommes pendant la monarchie de Juillet, mais la question c'est de savoir si elle ne l'est pas devenue, puisque d'abord l'iconographie, elle est plus liée à la Marianne au combat qu'à la Marianne assise de la République conservatrice. Et est-ce que l'Arc de Triomphe n'est pas finalement aujourd'hui ce que l'histoire en a fait ?
Bien évidemment, il y a toujours de la sédimentation et des projections de sens qui n'étaient pas forcément la signification originelle. Donc, de toute façon, il y a de la symbolique qui se construit. Et c'est la raison pour laquelle elle peut aussi se déconstruire, sinon se détruire. Elle peut se déconstruire, elle peut s'interroger en permanence. Il n'empêche que l'Arc de Triomphe n'a jamais été véritablement républicain. C'est un monument de la nation, ce qui est évidemment différent de la République. Les ligues de droite et d'extrême droite ne s'y étaient pas trompées, qui ont vraiment investi le lieu dès avant la Première Guerre mondiale, mais évidemment encore davantage après, Desroulets, de la Ligue des Patriotes, qui voyaient dans ce génie ailé, parce que c'est de ça qu'il s'agit, dans cette figure de Rude, c'est un génie ailé, il y voyait la némésis, c'est-à-dire la déesse vengeresse, en fait, la violence, la revanche, etc. Et donc c'est un espace qui a quand même très globalement été investi par la droite. Il y a eu quelques petites tentatives de reprendre les champs, notamment pendant le Front populaire, mais fondamentalement ça n'a pas perduré. Et on l'a vu ô combien en 1968, lorsque le 30 mai, c'est cette grande manifestation gigantesque même en soutien au pouvoir à De Gaulle, mais où on entend aussi des vifs pétains qui se déploient sous l'arc justement.
Pascal Horry.
Et pour reprendre la remarque de Laure Murat sur le fait qu'il y a un axe est-ouest, il faut pas oublier l'est. Effectivement, la gauche. Alors, au moment du Front populaire, c'est très clair, elle va vers la Bastille. elle a quand même du mal avec les Champs-Élysées. Mais en même temps, la monarchie de Juillet, c'est quand même une monarchie qui reprend le drapeau tricolore. Louis-Philippe a combattu à Valmy, donc elle peut jouer sur cette ambiguïté-là. Et d'ailleurs, le bonapartisme récupère le national aussi. Enfin, le national vient de la gauche. Donc, il y a des mixtures et des métissages intéressants.
Ce que je comprends quand même de ce que vous dites, c'est que l'histoire de l'Arc de Triomphe, c'est quand même celle de ses empaquetages successifs. Il s'est crêpé de noir pour les obsèques de Victor Hugo. Il a arboré, évidemment, le drapeau nazi pendant l'occupation, avant de se draper du tricolore à la Libération, jusqu'au Zidane président, vous l'écrivez, Ludivine, en 98. On se souvient peut-être un peu moins de ce 26 août 1970, où un groupe féministe rend hommage à celle qui est plus inconnue que le soldat inconnu, sa femme. Écoutez.
Comme prévu, des milliers de femmes ont bruyamment manifesté hier dans plusieurs grandes villes des États-Unis. Ces manifestations sont organisées par le mouvement de libéralisation de la femme. Plus inattendu, la petite manifestation organisée à Paris par le mouvement de libération de la femme française.
Et à l'Arc de Triomphe, un groupe de femmes dont l'écrivain Christiane Rochefort, auteur du Repos du guerrier, a voulu déposer une gerbe de fleurs en hommage à la femme du soldat inconnu. Nous voulons, disaient les militantes, nous solidariser avec les plus inconnues, les plus obscures, les plus humiliées des femmes.
Alors nous revoici dans l'axe États-Unis-France, où plus inattendu, en plus petit, la France se manifeste.
C'est un très joli document, hein, c'est un très joli document entre la libéralisation de la femme. Or, les quelques féministes, dont Monique Wittig, qui avait écrit le manifeste dans l'Idiot international quelques semaines avant, voulaient bien intituler ça « Le mouvement de libération des femmes », bien entendu. Alors, elles étaient une poignée de femmes, hein, y en avait une quinzaine à peine, et il y avait notamment une banderole, un homme sur deux est une femme. Et alors, Christine Delphi, que j'ai interrogée il n'y a pas très longtemps, m'a dit que quand elles se sont retrouvées dans le quart de flics, les flics l'ont dit, mais vous savez, nous, on est des vrais hommes. Parce qu'évidemment, un homme sur deux est une femme, ils avaient pris ça comme un homme sur deux est efféminé. Mais n'avaient pas compris qu'un homme sur deux, avec ce fameux mot homme qui est soi-disant universel, c'était bien une femme.
Donc c'est le lieu des célébrations, des commémorations, peut-être pourrait-on faire la différence, Pascal Horry.
Oui. Et de la contestation.
Et de la contestation,
à
justement.
À titre personnel, j'ai participé à un haut comité qui s'est d'abord appelé célébration, c'était une décision de l'État, donc c'est très français, bon voilà. Et au bout d'un certain temps, en particulier Jean-Noël Jeannet et moi, on a dit non mais écoutez, célébration, clairement ça ne nous convient pas, parce que on voit bien qu'on commémore, et dans les dernières années, on commémorait la grippe espagnole. Je ne peux pas dire qu'on célébrait. Donc, il faut être assez clair. Et effectivement, Laure Murat insistait bien sur le fait qu'il y a une monumentalité un peu massive et que là, on peut dire qu'il y a en permanence une provocation, une contre-provocation. Mais le monument, il peut être beaucoup plus discret. C'est la toponymie commémorative, les noms de rue. Et là, c'est beaucoup plus capillaire. Et moi, je me rappelle que dans ma ville quasi natale, à Rennes, ce qui est très beau, parce qu'au bout d'un certain temps, quand c'est relativement pacifié, ça se passe comme ça, il y a deux rues qui se croisent, ce sont deux personnes qui se sont tirées dessus, symboliquement. Mmh. C'était le maire légitimiste de la ville, et Papu, l'étudiant qui est mort sur les barricades. Ils ont chacun maintenant leur rue.
D'ailleurs, à Rennes, il y a aussi une école, Louise Michel, qui est une école élémentaire, qui se trouve dans l'impasse Thiers, du nom d'Adolphe Thiers, le sabre peuple.
Donc ça, c'est une des solutions.
Oui, mais ce qui est certain, au fond, Laure Murat, c'est que ce qu'il y a de commun, au fond, avec entre l'art contemporain et les mouvements militants qui contestent la commémoration ou la célébration, enfin en tout cas l'exposition dans l'espace public de ce qui peut sembler insupportable aujourd'hui, c'est qu'ils, encore une fois, ils aiguisent notre regard sur ce qu'on ne voyait pas trop dans cette conférence auquel je faisais allusion. Vous parlez de ce 22 mai 2020 et on est trois jours avant la mort de George Floyd. C'est ça qui est important, où des militants anticolonialistes renversent deux statues de Victor Schlosser en Martinique. Et alors évidemment, vous disiez, je m'en souviens, ça m'a frappé. Bon ben moi, je comprends pas trop ce geste, parce que Victor Schlosser, pour moi, c'est le...
Mais non,
et en même temps, il y a quelque chose à comprendre.
Ben je crois parce que contrairement à ce qu'on croit, ça introduit beaucoup plus de dialectique et de questions sur notre passé. Je prends volontiers mon exemple d'ignorante. Quand on renverse la statue de Schlosser, je me dis, on marche sur la tête. C'est l'homme qui a aboli l'esclavage. Bon, je fais des recherches. Je ne suis pas du tout spécialiste des questions postcoloniales, enfin coloniales. Et je découvre non seulement qu'il y a Schlosser, mais qu'il y a le schlosserisme, que tout ça est extrêmement compliqué, que l'empoisonnement à la chlordécone dans les anti-françaises est une sorte de poison colonial qui perdure, l'histoire des deux poids deux mesures, du fait qu'on a indemnisé les propriétaires d'esclaves et pas les esclaves, etc., etc. Donc évidemment qu'il y a beaucoup de nuances à apporter là-dedans et que Schlosser n'est peut-être pas le héros que la République a voulu nous faire croire.
Et surtout,
même si c'est certainement quelqu'un de très important dans l'histoire et dont il n'est pas question d'effacer le nom. Je m'empresse de dire ça.
Et surtout, en prêtant attention à leurs gestes, on comprend que ce qui est en cause, c'est le schlosserisme, c'est-à-dire c'est l'idéologie assimilationniste des Antilles.
Exactement. Et le fait qu'on a, dans le même mouvement, gommé les efforts des Martiniquais, des Guadeloupéens, etc., pour se libérer à ce moment-là, et même faire en sorte que le calendrier de leur libération soit plus d'un mois avant la date officielle, parce qu'évidemment, ils n'avaient aucune raison de croire la France et d'avoir confiance dans la France.
Peut-on vandaliser les monuments avec poésie? C'est l'interrogation d'une artiste belgo-rwandaise, Laurence Nguyumia, à partir de la statue très controversée, vous en avez parlé, leur murat de Léopold II, qui est devenue une sorte de poupée vaudou à Bruxelles. On ne cesse de la profaner avec inventivité, mais il y a peut-être un geste artistique à chercher, et elle l'a trouvé en 2018, lors de la Nuit Blanche de Bruxelles. Écoutez-la.
Le spectacle, c'est l'affronte, quoi. Donc on voyait vraiment Léopold II se défigurer, devenir tout malade, tout maigre comme ça. Non, quand je repasse devant la statue, ça me semble encore plus violent qu'avant maintenant.
Ah ouais.
Mais c'est cool, le lendemain, quelqu'un m'a dit qu'elle était passée devant la statue et qu'il y avait un tag, que j'ai pas retrouvé après, qui disait, donc sur la vraie statue, hein, qui disait, si on veut qu'il disparaisse, il va falloir s'y mettre.
Oui, en fait, la reproduction de la statue de Léopold II, déchue de son énorme socle qui flottait au-dessus d'elle comme par lévitation, eh bien, elle avait été remplacée par une statue en glace qui a fondu progressivement toute la nuit. Et au fond, c'est cela, Ludivine, l'histoire. Ce qui, si quelque chose fond, ce n'est pas seulement que ça disparaît, c'est que ça révèle, ça découvre des récits cachés.
Absolument, c'est vrai que c'est un catalyseur et de ce point de vue, je rejoins ce que disait tout à l'heure Laure Murat à propos du fait qu'il faut être attentive au raisonnement des protagonistes qui décident de ces gestes-là, qu'il s'agisse de gestes artistiques, esthétiques ou politiques, et les deux ne sont pas du tout incompatibles, tout au contraire. C'est-à-dire que autant, par exemple, justement, la statue de Léopold II, qu'elle soit profanée, qu'elle soit déboulonnée, la statue de Robert Lee, par exemple, encore récemment à Richmond, ou encore la statue d'un ses fondateurs du Ku Klux Klan en la personne de Nathan Forrest, ça ne nous choque pas, mais autant Victor Chocha, ah, là, ça ébranle en fait notre perception, et donc ça nécessite en fait de revenir à l'histoire, ce que font les protagonistes de ces gestes, et en soulignant que même si Chocha avait été évidemment l'homme de l'abolition, il était aussi un homme du colonialisme qui validait absolument l'idée de la mission civilisatrice de la France, et puis il faut voir aussi ce que sont ces statues, qui sont quand même assez paternalistes, hein. Les statues de Victor Schoelcher, c'est toujours avec un esclave qui doit lui être reconnaissant. D'ailleurs, dans le monument à Schoelcher à Sainte-Anne, en Guadeloupe, il y a marqué la race noire reconnaissante à Schoelcher.
Ce qui cache, et on en parlera dans une émission à venir sur l'esclavage, que ce sont quand même les Noirs qui ont été les premiers agents, acteurs de leur émancipation.
C'est ce qu'il s'agit de ne pas effacer, justement. Voilà. C'est le protagonisme des premiers concernés.
Pascal Laurie.
Comme toujours dans ce genre de discussion, nous sommes historiens, donc on va forcément interpréter les acteurs. Je signale que, par exemple, le grand moment de vandalisme de l'Occident, c'est le vandalisme des chrétiens à l'égard du polythéisme. Que les pays de l'Est ont vu s'effondrer les statues de Lénine, Staline et compagnie. Donc c'est un mouvement récurrent, mais dans des perspectives qui sont, dans les deux camps, autoritaires. C'est-à-dire qu'il faut abolir, damnatio memoriae. Mais en même temps, une fois qu'on a donné les explications, après, peut-être que dans les sociétés idéales qui, bien sûr, n'existent pas, ce serait la coexistence de ces mémoires. Parce que jusqu'où poussera-t-on la limite de ce qui n'est plus admissible? Bien entendu, la totalité de la culture médiévale, par exemple, est entre guillemets anti-juive et anti-islamique. Bon, donc, etc., etc. Donc, bien entendu, les historiens expliqueront après. Nous sommes aussi des citoyens, ça c'est une autre émission.
Laure Murat, pour terminer, au fond, on comprend bien que des gestes de déboulonnage à l'art contemporain, ce qui se joue, c'est au fond une question, non seulement sur le malaise de la monumentalité, mais sur le passage entre le vandalisme révolutionnaire et, disons, le musée révolutionnaire, pour reprendre un précédent illustre. Donc, quand inventerons-nous l'équivalent du musée révolutionnaire pour nous sortir de cet embarras?
Alors, je crois que ça, c'est une question très importante. Le vandalisme, c'est très ancien. C'est l'État révolutionnaire qui l'a pratiqué dans les grandes largeurs pour éliminer les symboles de la royauté et qui, à un moment donné, s'est dit, attention, il faut peut-être garder cette mémoire et a donc inventé le musée. Bon, je fais un raccourci un peu violent, mais enfin, le musée du Louvre et le musée des monuments français. Mmh. Alors, geste extraordinaire, puisque je crois que dans le cas des colonisateurs, je crois qu'il est très important de ne pas détruire la mémoire de ceux qui ont été opprimés. Il faut bien se souvenir que ce sont ces gens-là qui ont fait des enfumages de grottes, qui ont fait etc., etc. Donc, non pas détruire, mais peut-être réinventer une réutilisation de cette mémoire qu'on n'a pas envie de célébrer, mais qu'on n'a pas envie d'effacer. Il n'est pas question d'effacer. Il n'est pas question d'annuler, précisément. Il est question d'interroger l'histoire et d'interroger ce qu'on veut garder dans l'espace public ou pas. Alors, l'invention de l'équivalent du musée pour le XXIe siècle, il reste à trouver, mais je trouve que c'est un appel à l'imagination qui est très salutaire.
Merci Laure Murat, merci Pascal, merci Ludivine, c'est déjà fini. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier, réalisée par Xavier Pestugia. Il y avait aujourd'hui à la technique Alexandre Chenet. Dimanche prochain, nous parlerons de l'esclavage avec l'écrivain David Diop.